Bienvenue à toutes dans le podcast révolutionnaire Minceur. Ici, on aborde tous les sujets, les méthodes, les astuces possibles et inimaginables pour vous aider à déstocker graisse, eau, les kilos émotionnels. En bref, tous les outils possibles pour vous permettre de vous réconcilier enfin avec votre corps, ce précieux.
Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Minceur. Aujourd'hui, j'accueille Elena. Elena qui est coach vocal, qui t'aide à révéler la star qui est en toi. Et alléluia! Donc, je suis trop contente de te voir ici avec nous aujourd'hui, partager sur cet outil fabuleux qu'est la voix. La voix grâce à laquelle on peut aussi reprendre confiance en soi. Elena, tu nous racontes ton parcours?
Exactement. Coucou Marine, bonjour à tous. Très, très heureuse d'être sur ton podcast. Merci pour ton invitation.
Avec joie.
Et oui, la voix pour reprendre confiance en soi, tout un programme. Alors, c'est vrai qu'on fait pas forcément le lien au début, mais je vous assure qu'il y a vraiment des pépites à aller chercher dedans. Donc, j'ai hâte d'échanger avec toi sur le sujet. Alors, tu voulais que je me présente, c'est ça, que je parle de mon parcours?
Oui, parce que je trouve qu'il est tellement atypique aussi.
Oui, ouais, c'est vrai. Alors, je vous raconte. Alors, en fait, j'ai commencé à chanter il y a aussi longtemps que je me souvienne. J'ai eu une nounou, en fait, qui s'est occupée de moi quand j'étais petite, et elle m'a toujours dit que je chantais même avant de parler, tu vois. Donc, c'est vraiment quelque chose qui m'a accompagnée depuis toute petite. Ouais. Et s'il y a des mamans qui nous écoutent, et je sais que toi-même, tu es maman, chanter avec vos enfants, ça va aussi leur donner confiance en eux dès le départ et, voilà, leur donner l'audace de prendre la parole. Donc, c'est super important. Mm-hmm. Ouais. Et bon, libérer la créativité, bref, on en parlera tout à l'heure. Mais donc, voilà, j'ai chanté depuis toujours, mais moi, ce qui m'a vraiment interpellée quand j'ai commencé le conservatoire à l'âge de 6 ans, c'est qu'en fait, j'ai pris conscience du pouvoir qu'on avait chacun de pouvoir aider l'autre à avancer. Et je pense que c'est quelque chose qui m'a toujours beaucoup interpellée, même encore aujourd'hui. Je pense qu'une de mes premières passions dans la vie, c'est d'aider les autres, bizarrement. Et en fait, je me suis dit que, bah tiens, j'aimais chanter, donc pourquoi pas aider les autres à chanter. Le raccourci a été très vite. Et donc... très très jeune, à l'âge de 12 ans, j'ai ouvert une petite chorale. Donc j'avais une chorale d'enfants à cet âge-là, et donc voilà, je prenais des enfants qui étaient tout timides, qui osaient pas prendre la parole, à chanter, à libérer leur voix et à oser montrer leur talent. Et puis voilà, je me suis professionnalisée ensuite juste après le bac, j'ai ouvert ma petite entreprise pour donner des coachings, et puis je me suis formée plus précisément dans le coaching vocal ensuite en 2015 avec Richard Cross à Paris, et plus récemment dans une école internationale de coach vocal à Copenhague, de laquelle maintenant je suis diplômée. Voilà, donc j'ai un parcours effectivement super avec des choses très différentes, des enfants, des personnes âgées, des groupes, des individuels, des artistes, enfin bref. J'ai vraiment touché un petit peu à tout parce que j'avais à cœur de débloquer la voix de chacun, en fait, parce que je pense que on a tous quelque chose à dire.
Et tellement. Oh.
Je voulais, voilà, débloquer la parole et débloquer la voix de tout le monde.
En fait, j'ai une amie aussi qui est coach vocal thérapeutique, elle s'appelle Jessica. Elle t'écoute d'ailleurs, elle a vu tes vidéos sur YouTube.
Oh, chouette!
Ouais, je lui ai parlé de toi et justement, la dernière fois avec elle, je lui disais à quel point j'ai fait du chemin personnellement avec ma voix. Ouais. Mmh. À l'époque, quand j'étais infirmière en pédopsie, on avait un atelier qui s'appelait Corps et Voix. Et en fait, j'avais des collègues qui animaient ça avec des guitares, qui chantaient. C'était deux chanteurs. Il y avait un chanteur lyrique et une copine à moi qui est géniale. C'est une artiste aussi, elle chante. Et en fait, je lui disais à quel point j'avais du mal même à regarder les gens chanter. Oui. J'étais mal à l'aise. Mmh. J'étais mal à l'aise même quand ils chantaient et qu'ils me regardaient dans les yeux. Oui. J'ai compris petit à petit que j'avais du mal à connecter à ma propre vulnérabilité. Parce que je trouve que chanter, c'est se mettre à nu, t'es à poil devant quelqu'un. Parce que tu dois faire passer de l'émotion. Chanter pour chanter, je te chante les sardines, j'y vais à tue-tête, il n'y a aucun problème, tu vois. Mais chanter, c'est tu parles de quelque chose de toi que personne ne voit, en fait.
Exactement.
Et c'est tellement beau.
Complètement. En fait, la voix, le son de la voix va faire passer des émotions qui sont au-delà des mots, en fait. Tu vois, je peux te dire trois phrases de trois manières différentes. Tu vas comprendre ce que je te dis, non pas par les mots, mais par l'intention, par la manière, par la couleur de la voix, la hauteur de la voix, etc. C'est ce qu'on appelle le non-verbal, en fait. Dans le non-verbal, il y a plein de choses. Il y a autant les mouvements du corps que les intonations, que la couleur de la voix, etc. Donc, effectivement, chanter, mais aussi parler devant une grande foule. On oublie ça souvent, mais parler en public, c'est tout autant difficile parce que voilà, le timbre de notre voix parlée en dit aussi beaucoup, beaucoup, beaucoup sur notre personnalité.
Tu m'étonnes. Et d'ailleurs, en médecine traditionnelle chinoise, en consultation, je ne sais pas si tu sais, mais on prend vraiment, on fait très attention au ton de voix de la personne et on arrive à capter son énergie du jour grâce à ça.
Ah bah oui, bien sûr.
La voix, c'est un organe à part entière, vraiment pour moi, et je l'ai compris. La dernière fois, justement, j'étais en cours, en formation, je formais des formatrices, et on a fait un atelier avec Jessica, justement, sur la voix. Et il y a eu cette révélation à l'intérieur de moi de... parce qu'elle nous a fait chanter devant les gens en se regardant dans les yeux. Enfin, bon, voilà. Et cette révélation, Elena, vraiment, c'était... En fait, il n'y a pas de « je chante faux ». Il y a juste... Il y a quelque chose de faux à l'intérieur de moi. Est-ce que je suis capable d'aller mettre la lumière dessus et arrêter, en fait, de me faire croire que j'ai un problème avec ma voix, chose qui est fausse. On a tous des belles voix. C'est des voix, en tout cas. Peut-être on n'est pas tous prédestinés à des chanteurs. Et voilà, non. OK, on n'est pas tous des Céline Dion, peut-être. Mais pour dire, en fait, c'est... Quand on chante faux, c'est parce qu'on veut... J'ai eu cette impression quand j'ai fait l'exercice de « je veux être quelqu'un d'autre, je veux me faire passer peut-être pour quelqu'un d'autre, alors que juste moi, c'est déjà parfait, tu vois ?»
Absolument. Absolument. C'est important de comprendre qu'on n'a pas besoin de maquiller sa voix. Mais tu vois, c'est ce que tu dis aussi tous les jours par rapport au corps. On n'a pas besoin de le cacher, on peut être soi-même. Et je pense qu'aujourd'hui, c'est la même chose avec la voix. On veut se cacher derrière « Ah, mais je vais imiter Céline Dion et ça sera mieux. » Parce que moi, ma voix, elle n'est pas assez bien. Tu vois ? Alors que non. Je pense qu'au même titre qu'on a tous quelque chose à dire, on a tous une voix à faire entendre. On a tous une particularité dans sa voix. Et je pense que c'est super important de la découvrir pour la faire entendre. Parce que chaque voix est porteuse d'une histoire et d'une émotion. Et que... simplement copier l'histoire ou l'émotion de quelqu'un d'autre, ça sera beaucoup moins authentique. Et je pense qu'il faut oser être soi et oser faire entendre sa voix, carrément.
Complètement. Et ça, en fait, en étant authentique, c'est ouf tout ce qui nous arrive dans la vie grâce à ça.
Vraiment.
Juste quand ça s'appelle juste être aligné, nous, dans notre jargon. Enfin, tu l'as déjà entendu de toute façon dans le jargon du bien-être, être aligné. Et c'est là que tout de la vie te vient avec facilité.
Exactement.
Donc, ok, alors, j'avais quand même... parce que là, je commence à trop parler. Donc, je vais te poser les questions initiales.
Bien sûr.
La voix, cet organe d'expression de soi. Alors, au niveau de la symbolique du chakra, est-ce que vous en parlez dans vos cours, justement, au niveau du chakra de la gorge? Est-ce que tu peux nous en dire deux mots, toi, ou pas?
Alors, j'en ai entendu parler, très honnêtement. Moi, dans les formations que j'ai faites, on n'a pas forcément basé la pédagogie dessus. Par contre, oui, j'ai entendu parler du chakra de la gorge. Alors, je suis pas une experte en chakra. Par contre, ce que j'ai pu observer par rapport à la gorge, et même moi dans mon histoire, c'est qu'elle s'active souvent avec une émotion très, très triste. Je prends l'exemple d'un enterrement, par exemple, et quelqu'un qui dit « Non, mais j'ai pas pu parler à l'enterrement. » Alors, on va dire « Oui, mais c'est l'émotion. » Évidemment, c'est l'émotion, mais l'émotion va engager une mécanique des muscles qui vont fermer, en fait, les muscles de la gorge qui s'appellent les muscles constricteurs, qui vont se contracter et donc, du coup, avoir une espèce de pression sur le larynx, qui est un cartilage, et les cordes vocales, du coup, vont être complètement bloquées et le mécanisme de vibration va être beaucoup plus difficile, voire impossible, à cause, du coup, de ce mécanisme de fermeture. C'est vraiment de la mécanique au final. On arrive d'une émotion et cette émotion va déclencher une mécanique. Ça, c'est très important de le comprendre parce que en fait, souvent, on me dit « Mais Elena, j'arrive pas à chanter quand j'ai cette émotion. » Et en fait, le problème n'est pas d'enfoncer la porte, c'est-à-dire d'essayer d'ouvrir la mécanique à tout prix. On est des humains, on a des émotions et c'est normal, on n'est pas des robots. Il n'y a pas un petit bouton sur lequel on appuie pour ouvrir les mécanismes. Le travail qu'il faut faire, c'est le travail sur les émotions. Vraiment de travailler à accueillir, et je pense que tu le sais très bien, d'accueillir ces émotions, de ne pas les rejeter ou de ne pas être complètement submergé par ces émotions, de vraiment travailler sur ça pour ensuite avoir un impact sur la voix. Donc, Ouais, le chakra de la gorge, je ne sais pas si toi, tu as plus d'éclairage pour les personnes qui nous écoutent.
Voilà, ben moi, très clairement et très, très rapidement, c'est un des chakras qu'on vient travailler dans tout, en fait, mes protocoles énergétiques, parce qu'on les active tous, parce que pour moi, les uns fonctionnent avec les autres. Mais c'est vrai que c'est le chakra quand même de l'expression de soi, de savoir dire oui quand on veut dire oui, savoir dire non quand on veut dire non, etc. Oui. C'est prendre sa place, sa voix, exprimer tout ça, qui on est vraiment. Mais au-delà de ça aussi, juste rajouterai d'un point de vue anatomique, la thyroïde se trouve aussi dans cette zone, et la thyroïde est à la base de la construction du corps humain, même in utero, tout démarre de la thyroïde. Donc c'est quand même cette zone, elle est quand même juste ouf, rien qu'en pensant à ça. Tu vois, tout le circuit en fait neuronal se crée grâce à cette glande. Cette glande en plus qui représente un papillon, ouvrir ses ailes, ouvrir sa voix. Et comme tu disais finalement tout à l'heure, tout passe par l'émotion. L'émotion est le miroir où en fait non, elle est tellement en fait ce qui se passe à l'intérieur, ça va se comprendre, ça va s'entendre, ça va se par la voix. Tout simplement. C'est ouf comme on est transparent avec notre voix. Il faut vraiment être dans un méga contrôle quand justement on est dans l'émotion pour pas que ça se sente au niveau de la voix, clairement.
Mais c'est quasiment impossible. En fait, on dit souvent que la voix est le miroir de l'âme. Et en fait, on a vu, enfin, je sais pas si tu regardes des séries, mais je suppose que oui, dans toutes les séries ou dans tous les films qu'on peut voir, une personne triste dans un film, elle va quand même aller à la soirée avec ses copines ou à la soirée un peu guindée, etc. Elle va mettre une belle robe, elle va se maquiller pour essayer de masquer le fait qu'elle soit triste. La chose qui trompe pas, c'est la voix. C'est-à-dire que quand t'es triste ou quand tu regardes un film avec une personne dans ce cas-là, la personne va pas parler. Et du coup, je sais pas si toi t'as déjà été personnellement dans cette situation, mais tu te dis mais pourquoi elle parle pas celle-ci? Alors tu vas lui demander bah ça va, et la personne à ce moment-là ne va pas parler, elle va te faire un signe de tête en disant parce qu'elle sait pertinemment bien que si elle commence à parler, c'est la voix qui va parler pour elle. Et voilà. Moi je sais qu'il y a des moments où quand je suis très triste, c'est pas le fait d'être avec les gens qui va me faire pleurer, c'est le fait de commencer à parler. Ça va déclencher tout de suite chez moi une espèce d'émotion où j'ai plus de contrôle. Donc, la voix, c'est quelque chose, quelque part, j'ai envie de dire, on dit souvent que la voix nous trahit, mais justement, la voix nous trahit pas parce que elle est ce qu'on est à l'intérieur. C'est nous qui trahissons
la voix. Mais c'est tellement ça.
C'est nous qui essayons de cacher des choses, et forcément, la voix, elle va dire la vérité.
Mais donc, Et en fait, le reflet de cette âme-là, elle ouvre finalement la voie des eaux, la voie de l'émotion, parce que ça peut effectivement partir, comme tu dis, en pleurs. L'émotion, en fait, elle a juste besoin de circuler. Et la voix est l'annonciatrice. Il y a quelque chose qui ne va pas, là. Allez, on peut faire circuler ça, s'il te plaît.
Non, mais c'est ça. Et puis, quand tu appelles quelqu'un au téléphone, tu sais, appelles ta meilleure amie, par exemple, au téléphone, tu sais tout de suite l'humeur. C'est-à-dire que si elle te répond en mode « ouais », tu sais qu'elle est fatiguée ou qu'il y a un truc, elle est en basse énergie, quoi. Si elle t'appelle en disant oui, qu'est-ce qu'il y a? Tu dis bon, là, elle est énervée. Okay. Si elle t'appelle en disant oui, qu'est-ce qu'il y a, machin truc, et que la voix va vachement haut, tu dis oulala, il y a une bonne nouvelle. Tout de suite, tu sais au téléphone, à part les premières intonations de la voix, ou alors il y a un truc un peu neutre, un peu bizarre, et tu te dis bon, peut-être qu'elle essaye de cacher un truc, mais tu vas savoir dans les premières intonations de la voix comment se présente la personne et dans quel mood elle est, en fait.
Et tu sais aussi, je pense à toutes les professionnelles qui bossent pour nous avec Belly ou Drain Révolution et qui en fait se montrent sur les réseaux sociaux et expriment à quel point c'est difficile pour elles de s'entendre parler,
d'écouter.
Hein, ça, tu dois y être confrontée régulièrement, je suppose. Donc, à chaque fois, ça a été un exercice pour elles de dire oulala, faire une vidéo, oulala, faire un audio. Donc, ça note quoi pour toi?
C'est le rapport de l'image. C'est-à-dire, on a le son, évidemment, avec la voix, mais c'est un problème de ce qu'on renvoie. C'est-à-dire qu'on a l'habitude d'être avec soi-même, mais on s'entend depuis l'intérieur de son corps et on se voit depuis l'intérieur de son corps. Et c'est la même chose quand certaines personnes se prennent en photo et se disent « Oh là là, autant dans le miroir, bon, ça va à peu près, mais en photo, c'est une catastrophe. » Et c'est la même chose parce que c'est une espèce de représentation. Et comme nous, on n'est pas habitués à avoir cette représentation, on a un espèce de truc de dire bon ok, donc ok, ça c'est mon image de l'extérieur, alors que finalement moi je vis avec moi de l'intérieur. Et c'est la même chose avec la voix. On a l'habitude de s'entendre de l'intérieur, et forcément le son de l'extérieur n'est pas le même, et c'est normal puisque on ne s'entend pas de la même manière. J'ai une de mes mentors qui disait toujours, c'est comme si tu as toujours joué de la trompette depuis l'intérieur de l'instrument, donc en étant dans la trompette, et que tout d'un coup tu entends la trompette en étant à l'extérieur. C'est des fois pas du tout la même chose. Et elle me racontait même une expérience qu'elle a eue où elle osait pas chanter une note aiguë d'une certaine manière parce qu'elle trouvait ça criard, etc. Et qu'en fait, son manager lui avait dit « Non, non, mais on veut absolument cette note. » Et elle disait « Mais c'est horrible, je peux pas chanter comme ça. » Et donc, il l'a enregistrée et il lui a fait écouter juste après la note. Elle a dit « Mais c'est qui chante ?» Elle dit « Bah, c'est toi. » « Ah bon, mais ça donne comme ça, mais c'est génial !» Et en fait, elle s'est rendue compte que ben, pour elle, ce moment-là, c'était horrible quand elle le chantait de l'intérieur parce qu'elle trouvait ça hideux, mais que de l'extérieur, les gens devenaient complètement cinglés, ils se levaient, standing ovation, etc. Donc parfois, c'est encore une fois une idée de perception. Et notre perception, soit de nous-mêmes, soit de l'instant, n'est pas forcément la bonne. Mais le plus important, en tout cas quand on est artiste, c'est un don de soi, chanter. C'est un don. Donc, on n'est pas là pour que ça nous plaise à nous, même si c'est mieux quand même que ça nous plaise, évidemment. Mais on est aussi là pour faire un cadeau aux autres. Et le plus important, c'est que ça leur plaise à eux. Et donc, bah, voilà, de créer parfois des sons qui vont être un peu dérangeants pour nous, mais qui vont faire plaisir et qui vont faire du bien, surtout aux autres.
C'est clair, le son qui crée de l'émotion. Ouais. Les vibrations, de toute façon, là, on y vient, même dans les médecines alternatives, tout ce qui est, tu sais, bol de cristal, bol chantant, etc. Tous les sons qui guérissent, là, ils s'en rendent compte de plus en plus. Et je suis persuadée, j'ai une conviction à l'intérieur que notre propre voix est un organe de guérison interne aussi. Tu vois, c'était une des questions d'ailleurs. La voix et ses vibrations, elles génèrent comme un massage interne.
Oui, c'est ça.
Bouger l'énergie du corps. Est-ce que toi, justement, t'apprends ça à venir chanter dans ton ventre ou peut-être au niveau du bassin, enfin, je sais pas, mais.
En fait, ce qu'on sait peut-être, alors, on parle de vibration, mais en fait, on ne sait pas vraiment ce que c'est la vibration, parce que c'est quelque chose d'assez flou. Si en fait, dans le chant, on a deux choses qui se passent. On va avoir la résonance et la vibration. La résonance et la vibration sont deux choses qui se ressemblent, mais qui finalement ne sont pas les mêmes choses. Une résonance, c'est faire vibrer ou faire résonner un espace qui est plutôt creux, comme une cathédrale, une salle de bain. Le son résonne dans une salle de bain, par exemple, ou dans une cathédrale. Alors qu'une vibration, c'est faire vibrer ou résonner un espace plein. Par exemple, je prends, je sais pas moi, une tasse, je vais chanter en face de la tasse va vibrer. C'est un
contenant.
De la porcelaine, c'est la matière qui va vibrer. Ouais. Et donc du coup dans notre corps, quand on parle ou quand on chante, on va avoir aussi des caisses de résonance qui résonnent et des particules qui vibrent. Les particules qui vibrent dans notre corps, c'est les os. Et donc c'est super intéressant de se dire qu'au final, quand je parle et quand je chante, tout le corps vibre. Alors, on n'a peut-être pas cette sensation-là parce que c'est très fin. Et comme on vit avec depuis toujours, on n'a plus cette sensation-là. Mais je vous conseille vraiment de faire l'exercice à la maison et de juste faire un son et de l'arrêter. Par exemple, de vous mettre avec la main, pas avec le bras tendu ou pas avec le bras complètement... comment dire, à 90 degrés, mais de faire une espèce de moitié-moitié. Il n'est pas complètement tendu, il est peut-être 10% au-delà de tendu, votre bras, et juste d'aller chercher un son à peu près, je dirais quand même fort, dans les graves. On va le faire avec toi, Marie, tu vas voir si tu le sens. Mm-hmm. Et d'aller faire peut-être sur 3 secondes le son, 3 secondes je m'arrête, 3 secondes le son, 3 secondes je m'arrête, pour créer un peu l'effet du téléphone quand il vibre, tu sais, et d'aller regarder si on sent une toute légère vibration, un léger picotement dans les doigts. Donc on y va, on tend d'abord le bras super droit, et ensuite on le relâche un tout petit peu, voilà, pour qu'il soit en semi-flexion. Et on y va sur un son très fort, je te donne l'exemple, comme ça tu pourras le faire avec moi après, sur une espèce de « ah » et je lâche, « ah » et je lâche. Essaye de le faire et de sentir si tu as des picotements dans le bout des doigts.
« Ah » »« Ah » Je sens effectivement que comme s'il y avait de la circulation qui s'active.
Exactement. Exactement.
Davantage. Ouais. Okay.
Exactement. Et donc en fait l'idée, pour un travail, comme tu parlais de médecine, alors j'ai pas fait d'études sur le sujet, donc je pourrais pas te dire oui ou non, mais je pense que j'ai la même conviction que toi, et je pense que de juste faire ce travail vibratoire avec des sons, mais complètement aléatoires, on n'est pas du tout là pour faire une chanson ou pour chanter comme Céline Dion, on est juste là pour faire une exploration vocale et d'aller chercher des sons autant ou des trucs un peu vraiment dans tous les sens, d'avoir cette liberté vocale justement de laisser sortir n'importe quel son. Alors faites-le peut-être au démarrage quand vous êtes seul à la maison pour pas vous sentir gêné, parce qu'il faut vraiment avoir l'audace de sortir le son. Mais oui, vous allez sentir des vibrations un petit peu partout. Plus elles sont graves, vos vibrations, plus vous allez les sentir dans le bas du corps, plus le son est aigu, plus vous allez sentir les vibrations dans le haut du corps. Et il y a un nom pour ça, ça s'appelle la palesthésie. D'accord. La palesthésie, c'est la vibration des os en fonction du hertz de ma note, en fonction de la hauteur de ma note. Et nous, on l'utilise beaucoup, en tout cas moi j'ai été formée à la palesthésie, pour aider les gens à recorporaliser, à se reconnecter au corps quand ils chantent, mais aussi pour les aider dans la justesse. Parce qu'en fait, la palesthésie, ou on appelle ça aussi le clavier palesthésique, c'est qu'en fait, il y a pour chaque hauteur de note, comme un piano, pour chaque hauteur, il y a un endroit du corps. Si je fais « Ah !» cette note-là, je sais qu'elle va vibrer sur mon menton, par exemple. C'est une espèce de reconnexion entre le son que je produis et la vibration qu'il produit dans le corps.
Ah, c'est génial. C'est génial. Je trouve que c'est des super outils, justement, pour se réapproprier son corps, les parois de son corps. Enfin, même c'est pour ça, en fait, qu'on l'utilisait beaucoup en pédopsychiatrie. Ça te permet, évidemment, d'agir sur l'expression de soi, sur le développement de la confiance, de l'estime de soi. Mais, évidemment, ça permet de retrouver cette corporalité, un peu ses contours, se sentir contenu, parce que notre voix, elle part de nous. Et elle s'échappe ensuite. Enfin bon, c'est très... C'est le sujet de manière philosophique, mais au-delà de ça, j'avais juste envie aussi de rajouter ça, que la première des thérapies, de toute manière, c'est celle par la parole. Le fait de libérer sa voix, de libérer ses mots par les mots. M-A-U-X par les M-O-T-S. Donc, même j'ai envie de vous dire, je trouve que c'est un bel acte symbolique que de venir travailler... en coaching vocal thérapeutique ou en coaching vocal, je ne sais pas comment on appelle ça. Comment tu appelles ça, toi, des séances de coaching vocal?
Moi, j'appelle ça même de l'accompagnement vocal parce que, en fait, pour moi, alors, on parle de la même chose, bien évidemment. La seule chose, c'est que moi, j'ai arrêté de faire juste du coaching à la séance parce qu'en fait, je trouve qu'une personne qui entame ce genre de travail, il faut un suivi, forcément. Et donc, du coup, c'est pour ça que je parle d'accompagnement vocal parce que selon moi, il y a avant la séance, pendant la séance, après la séance, peut-être 3 semaines après, on fait un petit point et ensuite, on reprend encore une autre séance d'accompagnement. Mais pour moi, c'est pas juste prendre quelqu'un, la faire faire des sons un peu dans tous les sens pendant 1 heure, puis la laisser repartir et dire « bon, bah au revoir enfin, ». C'est un travail tellement profond et tellement intime qui a besoin d'un fil rouge. Il y a besoin de cette continuité pour suivre et accompagner la personne. Donc après voilà, peu importe le praticien que vous allez aller voir, je pense que la seule chose qui est fondamentale, c'est que vous vous sentiez en confiance avec cette personne. Parce que voilà, la voix, c'est quand même, on se livre, on le disait tout à l'heure, on est vraiment à nu. Et donc je pense qu'il faut se sentir à l'aise, avoir le feeling avec la personne. Et pouvoir juste avoir la liberté de lâcher prise avec des sons un peu étranges. Pour libérer, entamer ce travail libérateur. Et je pense qu'il faut juste que vous soyez confortable avec la personne qui vous écoute et qui vous fait travailler.
Donc vraiment, moi je mettrais au cœur de ce podcast que travailler sa voix, c'est venir aussi se libérer de ses mots la voix. Et en fait, est-ce qu'on peut un peu dédiaboliser peut-être la première séance de coaching vocal, d'accompagnement en fait, parce que tu sais, pour quelqu'un, moi par exemple, la première fois que j'ai eu affaire à un exercice comme ça, je me suis dit, oh là là, elle va me faire chanter direct. Est-ce que c'est vrai?
En fait, ça va dépendre de la personne que vous allez consulter. C'est-à-dire qu'il y a autant de spécialistes qu'il y a de coachs vocaux et on a tous notre manière de faire. Moi, je sais que ma spécialité, c'est la technique. Je sais que je sais la petite virgule, le petit point qui va faire la différence quand il y a un blocage, quand il y a quelque chose. C'est ma spécialité. Et donc, j'accompagne aussi des personnes dans la gestion de leur traumatisme par la voix. J'ai eu plusieurs personnes qui ne pouvaient pas chanter, qui sont venues faire mon accompagnement et par lesquelles j'ai pu les aider à libérer leur voix. Mais c'est sûr que je ne vais pas traiter ces personnes-là de la même manière qu'un chanteur qui prépare son nouveau disque et on a besoin de faire du travail purement technique. Donc en fait, bien sûr qu'on peut dédiaboliser, si on peut dire, le premier coaching vocal en juste disant que si vous trouvez un praticien qui juste est à l'écoute de qui vous êtes et en fait est prêt à se mettre à votre service, et on en parlera tout à l'heure dans la différence entre le prof de chant et le coach vocal, qui est finalement une différence de posture entre le professeur et le coach. Si je fais une mini introduction par rapport à ce qu'on va dire tout à l'heure, mais pour moi, le coach se met à la disposition de la personne. Le coach rejoint la personne là où elle est. Et donc, je pense que si vous trouvez quelqu'un avec cette intelligence-là, ça posera pas de problème. Parce qu'il y aura pas la chose de « c'est moi qui rentre dans le cadre ». Non, le cadre, il est modulable, il est flexible, et c'est au coach de l'adapter pour vous, pour faire en sorte que vous vous sentiez bien et que vous puissiez libérer les choses qui sont coincées. Donc voilà, je pense qu'effectivement, je suis pas sûre que tout le monde, tous les coachs soient sensibles à ça. Donc il faut juste trouver des personnes qui y soient sensibles. Mais effectivement, moi je sais que dans mes premières séances, on fait juste déjà un petit diagnostic de où en est l'instrument. Parce qu'on en parlait tout à l'heure, mais pour moi, c'est important d'accorder l'instrument avant de vouloir chanter. C'est la même chose avec un piano. On va pas commencer à apprendre un morceau sur un piano désaccordé. D'abord, on fait venir une personne qui va accorder le piano, il va tendre les cordes ou les relâcher, etc. Et ensuite, on fait jouer le piano. Ben là, c'est la même chose avec une personne. Avant de la faire chanter, on va d'abord l'accorder. Ouais. Et du coup, on rentre dans un vrai travail de dev perso, mais un travail de dev perso ou de thérapie qui finalement est en lien avec la voix, et on essaie de comprendre ce qui a fait que la voix est un petit peu endommagée ou coincée aujourd'hui. Donc si, pour répondre vraiment en une phrase à ta question, c'est possible, mais il faut juste vérifier que la personne ou le coach que vous allez consulter soit sensible à ce genre de choses. C'est tout, mais carrément, ça peut être très doux, très décomplexé. Il faut juste vous tourner vers la bonne personne, en fait.
Ok. Est-ce que tu as des exemples concrets par rapport à des clients que tu as eus, que ce soit en groupe ou en individuel, par rapport à la reprise de la confiance en soi et la remontada de l'estime de soi? Est-ce que tu as eu quelques exemples à nous raconter?
Oh là là, j'en ai tellement. J'en ai énormément, mais je vais te parler d'un profil en particulier parce que je sais que tu travailles sur le corps et donc forcément, ça va te parler. J'ai eu en décembre l'année dernière, de décembre à, je l'ai accompagnée pendant 6 mois, donc jusqu'à mai à peu près, j'ai eu une personne en coaching qui est venue me voir parce que elle n'arrivait pas à faire sortir sa voix ne sortait pas. Et elle m'a dit, écoute, alors oui, j'aime chanter, mais bon, je me lance dans une carrière de coach, de naturopathie, etc. Et je vais avoir besoin de faire des coachings, de faire des conférences, etc. Et je sens qu'il y a quelque chose de coincé. Et en fait, en creusant un petit peu, justement dans cette première séance, pour faire un petit peu le bilan de où elle venait, on s'est rendu compte que c'est une personne qui était en rémission de leucémie. Et qui en fait était, alors elle marchait, tout allait bien, mais elle était en fait encore conditionnée dans son ancien état. Pour elle, elle avait beau être debout, elle était encore assise sur une chaise roulante. Ouais. Et donc du coup, forcément, la voix, c'est une machinerie. Il faut un moteur, comme un bateau ou comme une voiture, il faut le moteur. Et forcément, si le moteur est pas connecté, la voiture avance pas. Et c'est ce qui se passait. Il manquait le corps. Et donc, du coup, c'était quelqu'un qui osait même pas prendre la parole en public parce que elle savait d'avance que la voix n'allait pas porter, que la voix allait retomber. Et donc, il fallait réactiver le moteur. Et juste avant de réactiver le moteur, on a aussi été creusé encore un petit peu plus loin, mis à part son ancienne maladie qu'elle avait vaincue, on s'était rendu compte qu'en fait, elle n'avait pas le droit de faire du bruit chez elle quand elle était enfant. Et que son papa lui disait toujours « ne fais pas de bruit, ne fais pas de bruit ». Et donc du coup, ça a été super fort parce que pendant son accompagnement, j'ai été lui faire demander à son père si maintenant, je ne sais pas, elle a 50, quasiment 60 ans, si maintenant elle avait le droit de faire du bruit. Et c'est parce que c'est hyper symbolique. Aujourd'hui, elle veut faire des conférences, et pour faire des conférences, pour être coach, il faut faire du bruit. Ça fait partie de notre métier. Et son papa a une réponse super étrange et lui a dit, tant que tu déranges pas, tu peux. Et en fait, et c'était génial parce qu'elle lui a répondu, mais non, en fait, ça y est, je suis plus une petite fille et je vais déranger. Et je trouve ça génial parce qu'en fait, juste cet exercice-là lui a juste permis de reprendre le pouvoir sur sa voix. C'est comme si c'était finalement son père qui avait eu le pouvoir sur sa voix jusqu'à présent et que là, elle venait reprendre la responsabilité et le pouvoir.
Oh, c'est ouf ce que tu viens de dire, parce que ça m'évoque, excuse-moi, ça m'évoque la voix V-O-I-X et la voix V-O-I-E. En fait, ta Exactement. Voix te permet de retrouver ta voix.
Exactement.
C'est ouf, mais c'est trop ça. C'est... Et Exactement. Je vois l'énergie d'ici de ce qui s'est passé pour elle. C'est génial.
Ah, c'était fou. C'était fou parce que du coup, en fait, elle s'appelle Marie-Sophie et elle, si vous le tapez sur YouTube, vous verrez son témoignage parce qu'elle est venue en parler en live et c'était ultra puissant parce que bref, c'était très très fort. Et en fait, elle m'a même dit que donc avec les exercices de voix qu'on a fait, elle m'a même dit que justement, elle avait réussi à se soigner dans son corps. Et elle m'a dit, tu sais, Elena, j'avais encore des douleurs, j'ai plus mal. Et en fait, j'ai trouvé ça, mais enfin, je vais reprendre ses mots. Elle m'a dit, c'est un miracle. Mmh. Et en fait, ça, je pense que ça a été un des coachings les plus forts de ma carrière. Parce qu'à chaque coaching, chaque fois que je la revoyais, parce que c'était un accompagnement de plusieurs mois, elle me disait, mais Elena, c'est un miracle. Les exercices qu'on fait ensemble, ça me guérit de l'intérieur. Mmh. Et je pense que quand elle disait ça, c'était autant son corps qui avait été meurtri par la maladie que son âme qui avait été meurtrie par ses parents et son éducation. Et qu'en fait, là, par le travail qu'on faisait, elle s'autorisait à nouveau à vivre quelque part, à vivre, à faire bouger son corps, à faire travailler son corps, à faire sortir sa voix. Et à la fin de l'accompagnement, elle avait une voix, mais qui faisait juste trembler les murs. C'était impressionnant. Et en fait, là, on est au-delà de la confiance en soi. C'est-à-dire que, bien sûr, elle a pris confiance en elle, mais ça a été un changement de vie. En fait, il y a eu un avant et un après pour elle dans sa vie, et ça a été assez spectaculaire parce que elle a juste réinvesti sa voix. Et donc, ça m'a particulièrement marqué ce coaching.
Mais tu vois, ça vient encore plus étayer et confirmer ce que je pense déjà de cet organe qui est, je pense, un système de guérison intérieure. Ouais. Guérison, dans guérir, il y a le mot guérir et il y a le mot rire. Et à chaque fois qu'on revient sur sa voix, on revient dans le plaisir, on revient dans la joie, on revient dans la gaieté, dans le rire. Et évidemment qu'on guérit. On guérit de tous nos maux, que ce soit... Après, y a des maladies qui... Voilà, on va pas rentrer dans le détail. Mais au moins guérir au niveau de la confiance en soi, guérir au niveau de son estime et de l'amour qu'on peut se porter. Et ouais. Ça, c'est, je suis sûre, et ça, tu me l'enlèveras jamais, que la voix accompagne beaucoup les gens à venir reconnecter à toutes ces notions-là. Merci pour cet exemple, c'était vraiment super beau. Et merci à ton élève aussi d'avoir témoigné du coup. Parce que c'est important en fait qu'on entende vos retours de tous ces changements qui se produisent dans vos vies. Ça invite vraiment les autres à changer aussi la leur, en tout cas si elles ne leur,
bien sûr.
Leur convient pas. Donc bravo à tous.
Je pense vraiment, en tout cas moi c'est ce que je dis pour les témoignages, enfin, moi, je suis pas là pour faire de la pub. Enfin, je veux dire, on sait toutes les deux, on a une entreprise qui fonctionne, on a des clients satisfaits. Mais moi, ce que je dis plutôt dans les témoignages, c'est que, en fait, ces personnes-là, c'est des inspirations pour les autres. C'est un petit peu comme les grandes sœurs ou les grands frères qui passent le relais et c'est qui ça. Disent non mais regardez ce qui est possible de faire. Et je pense que au-delà d'être chouette de faire un témoignage, pour moi, c'est important et c'est fondamental pour les autres. C'est juste penser aux autres et se dire il y a des personnes qui, pour X ou Y raison, doutent ou ont peur. Et c'est vraiment une responsabilité de se dire ben, la guérison de quelqu'un peut juste être derrière une phrase ou un mot que je vais dire. Et je trouve ça fort parce que chacun a ce pouvoir-là. Mais dans n'importe quel domaine, en fait. Dans n'importe quel domaine. Il faut juste avoir la sagesse d'esprit de le faire correctement, sans avoir derrière, comme on le disait, des mauvaises intentions, de rester juste authentique. Parce que, voilà, entre les belles paroles et la manipulation et tout ça, le créneau est fin. Donc, c'est juste de vraiment le penser de manière intelligente et de le faire correctement. Mais bien sûr, faites-le et témoignez si vous avez vécu de belles choses, parce que ça va changer la vie des autres qui vous écoutent. Donc, c'est important.
C'est ça, et c'est ce que je disais, en fait. Tu sais, il y a une expression qui dit... fais briller ta lumière, ça va inviter les autres à en faire autant. Et moi, je rajouterais le fait que tu mettes la lumière, ça permet aux autres surtout de trouver l'interrupteur pour allumer la leur, quoi, tu vois. Allez, go, fais briller ta lumière et que tout le monde sache comment tu as fait, parce que oui, ça peut aider. Alors, la dernière question pour toi, et on l'a un peu abordé, donc c'est quoi la différence finalement entre un prof de chant et un coach vocal?
Oui, alors en fait, si je reprends ce que je disais tout à l'heure, il y a la différence déjà de posture entre un prof et un coach. Pour moi, un prof, et je pense qu'on l'a tous vécu à l'école, c'est quelqu'un qui a un programme, c'est quelqu'un en fait qui sait où est-ce qu'il va, et en fait, c'est soit tu rentres dans le wagon, soit tu rentres pas. Et le problème, c'est que quand tu n'arrives pas à connecter avec le wagon du prof, qu'est-ce qui se passe? Tu te dis, non mais je suis nulle, je suis pas capable, c'est pas pour moi, je vais laisser tomber. Et moi, je reçois énormément de personnes qui ont pris des cours de chant avec un professeur et qui ont dit, mais oh là là, je me suis sentie tellement nulle parce qu'elle m'a fait faire une vocalise un petit peu difficile, j'étais pas capable de la faire et du coup, je me suis sentie... Alors, j'ai vraiment rien contre les profs. Je pense qu'il y a juste des périodes de vie ou des profils qui sont bien pour les profs et d'autres qui sont bien pour les coachs. Et je pense qu'il faut juste avoir la présence d'esprit et juste l'humilité de se dire, OK, moi, je suis plutôt pour ce public ou je suis plutôt sur ce public. C'est deux manières de faire. Et je pense aussi que le professeur de chant arrive de l'héritage de la musique classique, qui est une manière d'enseigner le chant qui n'a absolument rien à voir avec tout le reste. Le chant pop, rock, folk, R&B, soul, gospel, etc. qui est une manière de chanter qu'on va traiter à part. Un professeur de chant classique, en fait, son but, c'est de vous préparer quelque part à chanter de l'opéra. Donc, en fait, de forcer votre voix à être capable de chanter de l'opéra. Donc, vous ne pouvez faire rien d'autre. C'est comme la danse classique. Vous devez formater votre corps à reproduire les mouvements. Il y a les pointes avec les pieds qui font très mal, etc. Il y a toute une mise à disposition du corps, et là, dans le chant classique, une mise à disposition de la voix pour cet art, qui est finalement pas du tout la même chose dans les autres styles de voix. Ou au contraire, bien sûr, il y a des règles. Dans le gospel, il y a des règles. Il faut que tu chantes fort. Si tu chantes du gospel avec une voix un petit peu blanche et vaporeuse, ça marche pas, hein, évidemment. Mais bien sûr qu'il y a des règles, mais tu as quand même la liberté d'être toi-même. Et c'est ça que je trouve juste génial. Et c'est pour ça que moi, le chant lyrique m'a pas forcément attirée, même si je trouve ça très impressionnant. Moi, j'avais l'impression de pouvoir, j'avais vraiment envie de vouloir être moi-même, de pouvoir exprimer qui je suis au travers du chant. Et j'ai trouvé que dans le reste de la musique qu'on pourrait appeler les musiques amplifiées, parce qu'on chante avec un micro, alors que dans l'opéra, on va chanter sans micro. Dans les musiques amplifiées, en fait, on a la liberté de pouvoir changer la mélodie, faire de l'impro, etc. Chose que tu peux pas faire en classique, il y a pas d'impro. Hein. Donc voilà. Je pense que c'est cet héritage-là que du coup le professeur, il va te préparer à chanter quelque chose et il faut que tu rentres dans le moule. Alors qu'un coach, et j'en parlais tout à l'heure, il va s'adapter à ton moule, à toi. Il va s'adapter à ce que tu as envie de chanter, comment tu as envie de le faire. Et c'est vrai que moi, la première question que je pose souvent dans mes coachings, c'est « t'as envie de quoi ? Comment tu veux que ta voix sonne et qu'est-ce que tu veux chanter ?» Et là, souvent, c'est un peu le choc de mes coachés qui disent « mais tu vas pas m'imposer une chanson ? Tu vas pas me dire de chanter comme ci, comme ça ?» Parce que vous êtes même des artistes et j'ai envie de vous accompagner dans votre créativité. J'ai pas envie de vous brider, en fait. Donc, voilà. Je pense que les deux postes sont OK. C'est juste des sensibilités, peut-être des accompagnements à différents niveaux de votre parcours de chanteur ou de voix parlée. Mais voilà, moi, je me suis toujours beaucoup plus retrouvée dans le coaching parce que je pense avoir une âme de coach qui est beaucoup dans la flexibilité, dans l'écoute et dans le fait de servir les autres. Plutôt que de rester derrière mon piano à dire, bon, ben, l'exercice, c'est ça, tu vas rentrer dedans. Et voilà, c'est pas ma personnalité. Et puis, voilà, j'ai plus une âme de coach sportif qu'une prof de yoga. Tu vois, j'ai plus cette âme un peu pom-pom girl. Donc, ça m'allait vachement mieux. Mais voilà, c'est deux métiers. En fait, je dirais que c'est deux métiers différents. Okay, et qu'il faut pas hésiter à aller, si c'est quelque chose qui vous intéresse, à aller tester les deux et de voir ce qui vous convient le mieux.
C'est ça. Elena, c'est quoi ta chanson préférée?
Oh, bonne question. Ma chanson préférée, alors j'en ai tellement. Je veux dire, allez, la première qui me vient en tête, là, que j'aime énormément et que j'ai beaucoup chanté, c'est une chanson du film The Greatest Showman. Je sais pas si tu l'as vu, ce film.
Non, ça me
parle pas. Avec Hugh Jackman, c'est une comédie musicale. Alors le film, moi je l'ai pas trouvé terrible, mais c'est pas grave. La BO, par contre, les chansons sont juste incroyables. Et c'est une chanson qui parle d'une fille qui n'a jamais été acceptée telle qu'elle est et qui revendique et dit « Je suis moi ». Donc la chanson s'appelle « This is me ». Peut-être que tu as entendu cette chanson. When a shot is fired, when a cuts me down. I wanna set a flag, gonna try to mount. I am brave, I am bruised. J'aime bien cette chanson parce que c'est le truc du lundi matin, tu sais, où tu as besoin de reprendre justement confiance en toi. Et tu vas chanter cette chanson fort dans la douche parce que ça te donne de l'énergie et de la confiance, quoi.
Donc, tu m'as devancé, j'allais te dire, vas-y, tu nous chantes un petit bout. Bon, mais c'est parfait, voilà. Merci ma belle. Voilà, nickel, c'est impeccable. On est vraiment sur la même longueur d'onde. Merci beaucoup pour,
avec plaisir,
pour cette interview que tu nous as accordée ici, pour les petits tips aussi pour reprendre confiance en soi par la voix. Ouais. Et finalement, c'est pas si terrible que ça. C'est vraiment partir à la rencontre de qui on est, le miroir, le reflet de notre âme. C'est beaucoup, beaucoup par là. Donc, merci beaucoup.
Avec plaisir, Marine.
Mon cœur d'avoir été là. Et puis, si vous voulez retrouver Elena, je vous mets tout le descriptif sous le podcast. Vous aurez tous les liens pour la retrouver sur ses réseaux sociaux, Instagram et beaucoup sur YouTube aussi, parce que je sais que tu es beaucoup suivie sur YouTube et que tu fais beaucoup de vidéos aussi pour aider tout le monde. Donc, génial. On peut te retrouver sur ces différents canaux. Merci encore, Elena.
Merci à toi, Marine. À très bientôt. Ciao.